Voici l'actualité francophone. Bienvenue à tous. De la violence et pas mal de tensions au sommaire cette semaine. Violence en France à l'encontre des policiers qui ont manifesté contre ce qu'ils appellent la haine anti-flic. Les images d'une voiture de police en flammes font beaucoup réagir, nous dira Annette Ardisson. En Belgique, la commune de Molenbeek décide de fermer une école coranique, précision de Nathalie Devic. En Suisse, Joël Marchetti se penche sur l'agacement croissant contre l'afflux de travailleurs frontaliers français, avec quelques dérapages à la clé. Et puis au Canada, une députée de l'opposition bousculée par Justin Trudeau. Le coup de coude du Premier ministre fait hurler l'opposition. Benoît Audet nous fera le récit de ce coup de gate. En France, outre la disparition du vol Paris-Le Caire, évoquée bien sûr dans les journaux, c'est la vidéo d'une agression sur des policiers qui a fait la une et le tour des réseaux sociaux, Annette Ardisson.
Oui, on a plutôt l'habitude de voir circuler des photos ou des vidéos de violences policières. Mais cette fois, les rôles sont inversés. Des policiers étaient rassemblés place de la République contre ce qu'ils qualifient de haine anti-flic, quand à quelques mètres de là, un véhicule de service avec deux fonctionnaires à bord, un homme, une femme, a été attaqué par des contre-manifestants. Sur la vidéo, on voit des hommes cagoulés, briser les vitres à coups de barre de fer, jeter un engin incendiaire par l'arrière et tenter de frapper l'agent qui sort de la voiture. Celui-ci esquive les coups sans faire usage de son arme. Un homme finit par s'interposer. Le policier et son équipière s'éloignent de la voiture en flammes. 5 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête.
Et ce n'est pas la première fois que les casseurs prennent le dessus sur les forces de l'ordre.
Non, et ce qui est inquiétant, c'est que le service d'ordre des syndicats, des gros bras s'entendraient pourtant, eh bien, les services d'ordre se font maintenant déborder par des attaquants qui s'introduisent dans les cortèges. Des groupes proche de l'ultra-gauche, beaucoup plus violent et organisé que les petits voyous qui sévissaient jadis en fin de cortège pour piller les magasins.
En Belgique, Nathalie Devic, dans la désormais bien connue commune bruxelloise de Molenbeek, une école coranique clandestine a été fermée.
De l'extérieur, rien ne permettait de comprendre qu'il s'agissait d'une école. Une simple villa située un peu à l'écart du centre de la commune, mais dont les vitres se sont peu à peu couvertes d'autocollants, sans doute pour mieux occulter l'intérieur. Ce qui a mis la puce à l'oreille des voisins, d'abord, puis des agents de l'administration communale, ce sont ces allées et venues quotidiennes d'hommes en djellaba et de femmes complètement voilées, accompagnées d'enfants entre 3 et 8 ans, dont des fillettes en bas âge portant déjà le voile, à des heures où les enfants sont censés être précisément à l'école. Un contrôle de police a achevé de lever les doutes. Les pièces avaient été aménagées en salle de classe, avec au mur des préceptes religieux sans équivoque, et de quoi accueillir une quarantaine d'écoliers, comme l'explique la bourgmestre de Molenbeek, Françoise Kepmans.
Il y avait des enfants, dont certains sont en âge de scolarisation, mais qui sont coupés du monde. Ils évoluent dans un cadre, dans un environnement strictement religieux, et c'est un environnement, je dirais, de conservatisme, de fondamentalisme religieux.
Comme la présence d'un foyer de radicalisation n'a pas pu être prouvée, les autorités ne pouvant que faire état de soupçons de radicalisation, la bourgmestre a dû invoquer officiellement des raisons urbanistiques pour faire fermer cette école légalement. Et à ce niveau-là, elle n'a eu aucun mal, vu les nombreuses infractions. L'association qui gérait l'établissement ne disposait d'aucune autorisation pour transformer cette maison unifamiliale en école de fortune. École sans ouverture sur l'extérieur, donc sans cours de récréation. Le bâtiment n'avait jamais été contrôlé par les pompiers, aucune garantie en termes de sécurité. De plus, le personnel n'était pas déclaré et les enseignants n'avaient même pas le titre requis pour donner cours.
Et ce n'est pas le seul cas détecté dans la commune, Nathalie.
Effectivement, ces derniers jours, 3 autres lieux fréquentés par des enfants ont été fermés à Molenbeek pour des raisons similaires. Ce n'est pas forcément le signe qu'il y en a plus, mais que depuis le début de l'année, suite aux attentats de Paris puis de Bruxelles, les polices locales et fédérales renforcent leur collaboration et intensifient les contrôles, notamment sur des associations dans des communes jugées sensibles, afin de prévenir les problèmes de radicalisation.
En Suisse, Joël Marchetti, la semaine a été marquée par un chiffre qui concerne les travailleurs frontaliers.
Les travailleurs frontaliers qui résident en France et viennent chaque jour travailler en Suisse sont un thème récurrent ici depuis plusieurs années. Ils sont plus de 150 000 chaque jour à venir de France pour travailler en Suisse. Leur nombre est en augmentation, notamment à Genève. Dans le même temps, les frontaliers contribuent naturellement à la croissance économique de la Suisse. Et pour la première fois cette semaine, l'impact des frontaliers sur le PIB de la Suisse francophone a été calculé. Résultat, le travail des frontaliers représente une part de 18% du PIB roman, loin d'être négligeable.
Mais en parallèle, l'emploi de ces frontaliers suscite aussi des crispations.
Un exemple. On a appris cette semaine qu'une institution genevoise d'encadrement pour handicapés, subventionnée par l'État donc, aurait engagé des frontaliers à la place de chômeurs genevois, ce qui a suscité la colère du ministre genevois Mauro Poggia. Il demande le licenciement pur et simple d'un de ses employés.
Sur 11 membres du comité de direction, il y a 7 frontaliers. Ce qui pose réellement un problème lorsque le comité de sélection des candidats est composé précisément de personnes frontalières qui ont aussi une connaissance des diplômes qui est autre que celle des diplômes suisses. Il ne s'agit pas de mettre les uns contre les autres, c'est simplement faire en sorte qu'il y ait un tissu social équilibré, qu'il y ait une cohésion sociale et que lorsque l'on nous dit que l'on va atteindre les 100 000 frontaliers à Genève, que nos chômeurs et les personnes qui sont à l'aide sociale ici à Genève se disent qu'on fait quand même quelque chose pour eux.
C'est un simple exemple, mais le thème revient régulièrement sur le devant de la scène. À Genève, un parti politique, le Mouvement Citoyen Genevois, s'est même développé en réaction au nombre croissant de frontaliers. Autre signe que le sujet touche, une journaliste française établie en Suisse a publié récemment un livre qui dénonce un certain racisme anti-français de la part des Suisses. Ce livre suscite ici un débat très vif.
Au Canada, un débat sur l'aide médicale à mourir a donné lieu à une bousculade au Parlement fédéral. Cette affaire a fait beaucoup de bruit, surtout que le Premier ministre, Justin Trudeau, est au centre de la tourmente. Benoît Audet, on commence par expliquer ce qui s'est passé.
Oui, il y a présentement un débat très tendu sur l'aide médicale à mourir au Parlement. Le gouvernement Trudeau a voulu imposer une limite de temps à ce débat, ce que dénonçaient les partis d'opposition. Mercredi soir, Justin Trudeau a remarqué qu'un député conservateur, donc un député de l'opposition, était en quelque sorte coincé derrière un groupe de députés du NPD, un autre parti d'opposition. Justin Trudeau a alors quitté son siège pour aller agripper le député conservateur par le bras pour l'aider à se frayer un chemin, mais il a par le fait même bousculé une députée du NPD.
Et ce coup de coude a soulevé la colère de l'opposition.
Oui, surtout du côté du NPD, le chef de ce parti, Thomas Mulcair, en est venu aux insultes avec le premier ministre. La députée qui a été bousculée, Ruth-Hélène Brosseau, elle, avait l'air ébranlée après l'incident.
Alors, comment a réagi le premier ministre?
Il a présenté des excuses le soir même et il l'a fait de nouveau le lendemain au cours d'une séance spéciale pour débattre de la question. On écoute le premier ministre.
Je tiens à présenter des excuses à la députée de Berthier-Masquinongé. Dans mon empressement, je n'ai pas fait attention aux gens autour de moi et j'ai accidentellement bousculé la députée de Berthier-Masquinongé et c'est quelque chose que je regrette profondément. Les députés s'attendent à un meilleur comportement de la part de n'importe qui dans cette chambre et avec raison. Je m'attends à mieux de moi-même.
Quoi qu'il en soit, toute cette affaire semble avoir fait fléchir le gouvernement qui a décidé finalement de laisser le temps aux députés pour débattre. Somme toute, les événements de la semaine ont démontré à quel point la question de l'aide médicale à mourir est délicate.
Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine et bien sûr sur le site www.lesmediafrancophones.org.